Donc B, pour B, on a choisi bourgeoisie. Bourgeoisie entendu comme classe capitaliste. De Marx, en fait, pour moi, je retiens cette idée force à propos de la bourgeoisie. La bourgeoisie, écrit-il, ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production et donc les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. Cette nécessité impérieuse pour la bourgeoisie de devoir sans cesse aggraver l'exploitation et accroître la survaleur, son incroyable capacité d'autorégulation ne fait-elle pas d'elle une classe révolutionnaire ?
Oui, c'est vrai que la bourgeoisie, c'est compliqué parce que c'est le centre du marxisme. C'est le centre du marxisme en tant que le premier concept de classe qui est utilisé, analysé par Marx et Engels dans le manifeste. Mais c'est aussi le centre dans la mesure où on ne peut pas penser la bourgeoisie en dehors du couple qu'elle forme avec le prolétariat. Tout simplement, et c'est la première remarque qu'on peut faire, tout simplement parce que la bourgeoisie et le prolétariat ensemble ont la même origine. La bourgeoisie n'est pas une classe qui a toujours existé. La bourgeoisie, comme le prolétariat, apparaissent avec les rapports capitalistes de production parvenus au stade proprement capitaliste, c'est-à-dire au-delà du premier stade marchand où nous n'avons qu'une esquisse de la bourgeoisie. Dans les rapports, lorsque s'instaurent les rapports capitalistes de production, la bourgeoisie est créée en fonction de la propriété qui lui appartient des moyens de production, la terre, mais aussi les usines et tout le développement économique. La bourgeoisie va contrôler tout ça. Et elle s'affirme en France, par exemple, dès le colbertisme, hein, qui est une forme d'affirmation de l'autonomie de la bourgeoisie. Mais développant son emprise sur la société, la bourgeoisie crée le prolétariat dans la mesure où l'existence de la bourgeoisie n'est possible que s'il y a une domination sur un ensemble de prolétaires, d'ouvriers, qui servent à l'enrichissement de la bourgeoisie elle-même, c'est-à-dire en produisant, comme vous l'avez rappelé, la survaleur. C'est-à-dire que là, autour de la bourgeoisie, pour bien la comprendre, il faudrait que nous fassions graviter toute une série de concepts qui sont fondamentaux. Parce que ce sont ceux que nous retrouverons dans le Capital et ceux auxquels le Capital va consacrer des analyses extrêmement riches. Alors, le concept de propriété, je l'ai rappelé, le concept de salariat, c'est-à-dire le capital n'est pas concevable sans le travail salarié, réciproquement. Le salariat, pensons bien à ce que cela signifie. Cela signifie qu'il y a un rapport entre le travailleur et celui qui l'emploie, c'est-à-dire le travailleur et le capitaliste, qui est fondé sur un rapport naturellement d'exploitation et qui est un rapport d'exploitation dans la mesure où c'est le capitaliste qui décide des conditions de travail et par voie de conséquence des conditions d'existence qui vont être celui du travailleur. Quand on dit que le salariat est un rapport égal entre quelqu'un qui dispose d'une marchandise et quelqu'un d'autre qui veut l'acheter, en réalité c'est faux, il n'y a pas aucun rapport d'égalité. Il n'y a aucun rapport d'égalité, il y a un rapport au contraire d'inégalité profonde qui va même jusqu'à faire de l'action de la bourgeoisie un facteur de division entre les ouvriers eux-mêmes, en les dressant les uns contre les autres. Donc, propriété, salariat, exploitation naturellement, et accumulation. Hein, le mode de production capitaliste se développe à travers tout un processus d'accumulation que Marx montre dans son évidence avec les colonies. Ce qui se passe aux colonies, où on voit naturellement des formes forcenées de l'exploitation, donne une idée de ce qui se passe en réalité, de manière moins visible, dans les rapports des travailleurs, dans les sociétés capitalistes, sociétés occidentales. Et naturellement, le concept le plus important, c'est celui de lutte de classe, la lutte de classe entre la bourgeoisie et le prolétariat, avec cette idée qui a été, on peut dire, l'idée de l'idée phare, l'idée de départ de Marx et de ses amis, savoir que la bourgeoisie crée le prolétariat, mais créant le prolétariat, renforçant sa propriété et son exploitation sur lui, elle fait du prolétariat ce que Marx appelle son fossoyeur. C'est-à-dire qu'un moment arrivera où les conditions sociales de travail que la bourgeoisie aura créées feront que le prolétariat se soulèvera et se substituera son pouvoir à celui de la bourgeoisie. Maintenant, une nouvelle remarque, il faut s'interroger sur ce pouvoir de la bourgeoisie. Ce pouvoir de la bourgeoisie, alors vous avez bien rappelé, et ça c'est un élément tout à fait important, que Marx, de manière tout à fait lucide et puis attentive à l'histoire, il faut penser que Marx avait songé à écrire une histoire de la Révolution française. Et on comprend bien que ce qu'il cherchait dans l'histoire de la Révolution française et les fragments qu'il en a laissés, c'était précisément l'apparition de cette classe, de cette bourgeoisie, dans la mesure où elle a eu, c'est le premier pas de son existence, à se défaire de ce qu'on appelait la société d'ancien régime, c'est-à-dire à se défaire de la féodalité. Alors, les formes de domination de la bourgeoisie. Il y a la forme économique, et c'est au niveau de la forme économique que Marx dit que la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les moyens de production. Et c'est vrai que la bourgeoisie est l'incarnation même de ce que les philosophes appellent le progrès. Pendant très longtemps, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on a pensé que dans l'histoire, il y avait une période comme la période médiévale, qui est une période où il ne se passait rien, où on ne pouvait pas parler de progrès, etc. C'est faux, naturellement. Mais qu'est-ce qui met l'idée de progrès dans la tête de tous, sans exception, les philosophes et les penseurs? Eh bien, c'est le développement du capitalisme, c'est le rôle que joue la bourgeoisie. Parce que la bourgeoisie casse tout. Elle en finit avec toutes les formes de domination féodale, qui étaient des formes arbitraires, le fait que les pouvoirs aient été héréditaires, la noblesse n'est pas fondée sur son travail, ni même sur le travail des autres, même quand ils sont serfs, la bourgeoisie est un facteur de progrès. Et ça permet de préciser que Marx et Engels, eux-mêmes, jusqu'à la fin de leur vie, ont cru au progrès. Nous sommes différents d'eux, parce que nous connaissons, comme le disait un syndicaliste autrefois, les dégâts considérables que produit le progrès, et en particulier les situations dans lesquelles l'utilisation de la science nous met aujourd'hui, qui sont des situations tout à fait dangereuses. Marx et Engels, eux, croient au progrès, que les rapports capitalistes produisent le prolétariat, que le prolétariat va créer la société heureuse, etc. Alors le pouvoir de cette classe, sans insister beaucoup, il est donc économique, hein ? Il est économique, c'est-à-dire la mainmise sur les instruments de production, sur le procès de travail, etc., etc. Il est aussi politique. Il est politique dans la mesure où, avec la Révolution française, la bourgeoisie est parvenue au pouvoir. Elle a imposé son pouvoir et, sous diverses formes politiques, elle a maintenu ce pouvoir au point que Marx et Engels, surtout, ont pu considérer que l'État était une sorte de conseil d'administration de la bourgeoisie. Et puis, il y a, il ne faut pas le négliger non plus, le pouvoir idéologique. Lorsque Marx écrit que les idées de la classe dominante sont les idées dominantes, c'est une formule qu'il faut prendre tout à fait au sérieux, parce que cela signifie que les exploités, les dominés, les travailleurs, le prolétariat, a dans la tête les idées de la classe dominante. Et que par conséquent, il pense sa propre condition, y compris la volonté de se soulever. Il la pense à travers des catégories qui sont celles de la classe dominante. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'histoire du marxisme, jusqu'aujourd'hui, il faut réfléchir à l'extraordinaire difficulté qu'a représenté une pensée autonome du prolétariat, c'est-à-dire une pensée politique qui ne soit plus la politique bourgeoise, avec toutes les conséquences que ça emporte, notamment sur ce dont nous avions parlé la dernière fois, c'est-à-dire sur l'État, la religion, la famille, le couple, etc. Donc c'est ça la bourgeoisie.